Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique des thermofromages. Nouveau numéro pour cette nouvelle saison, donc on a gardé la même équipe. Salut Flavien.
Salut Père Castor, comment vas-tu? Alors est-ce que tu es prêt pour définir pendant un an de plus, tous les deux mois?
Ouais, on va essayer de tenir le rythme jusqu'à la fin de la saison.
Ouais, c'est...
Donc bon, d'ailleurs on a un petit peu allégé le rythme. Hein. Là on est sur du bimestriel, non bimensuel?
Bimestriel,
voilà, ouais.
Mais c'était déjà le cas l'année dernière.
Ouais, on garde le même rythme, hein, je pense.
Ouais,
on a pris notre petit confort.
Et d'ailleurs, je crois qu'on a déjà arnaqué un peu nos amis podcasteurs, Cyrus et ça devait être le Pionfesseur.
Pionfesseur, ouais.
Parce que c'était nous qui étions censés le faire en septembre, mais en plus, on ne le savait même pas.
Hein. Ah bon ?
Ouais, enfin moi, je ne le savais pas, c'est leur planning secret, là, dans le bureau.
Moi, j'ai toujours l'habitude qu'on enregistre les thermofromages aux alentours de la Toussaint, donc proche des vacances. Donc, on va démarrer cette nouvelle saison avec un nouveau terme. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, la saison dernière, on nous avait proposé toute une série de termes.
Yes.
Et on s'est dit, super, on a déjà notre programme pour l'année prochaine. Et évidemment, on ne s'y est pas tenu.
Bah non, et on va commencer la nouvelle saison avec la première lettre de l'alphabet.
Absolument. Le A, on n'a pas fait de A encore. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette lettre A, Flavien?
Ah bah écoute, derrière la lettre A se cache beaucoup de choses. À la fois l'alcool.
Ouais.
Mais aussi acariâtre.
Oui.
Et d'ailleurs.
Et de notre terme acariâtre, il y a qu'une petite un petit trait d'union puisque c'est lui qui nous l'a proposé par inadvertance.
Ouais. En fait, on a discuté. Oui. Qu'est-ce qu'on fait et tout. Et puis après, t'es venu et tu as dit, ah, j'ai une idée. Ah, ça, c'est les discussions d'acariâtre sur Twitter qui t'ont inspiré.
C'est ça.
Puisqu'aujourd'hui, nous allons parler. Je te laisse le dire puisque c'est toi qui m'as suggéré cette idée.
Eh ben, on va parler du terme asymétrique. Sans oublier, bien sûr, également le terme symétrique. Hein. On ne peut pas parler de l'un sans ignorer l'autre.
Et alors là, autant dire tout de suite, on a inauguré d'ailleurs pour préparer cet épisode un petit truc qu'on refera peut-être. C'est que lors de la préparation, donc on a un drive et tout qu'on remplit à distance. Et on s'est mis sur Twitch pour discuter, pour montrer comment préparer avec en fond sur Twitch le drive. Et puis,
Puisqu'on a préparé à distance également. Hein. Mm. On était en distanciel chacun de son côté.
Bah, sur Discord, ouais. Ouais, justement. Et du coup, on avait Monsieur Bleu, Cyrus... et d'autres personnes qui sont arrivées, des fois par inadvertance, sans savoir ce qu'était ProxyJeux, c'était rigolo, mais qui ont pu, entre guillemets, nous aider à la préparation de l'épisode.
Moi, je pense que c'était assez dit, hein, d'avoir un Google Drive projeté sur Twitch. Je pense que les gens ont plutôt l'habitude d'avoir des trucs un peu plus dynamiques, hein, qui bougent un peu plus. Là, c'était relativement statique, mais c'était surtout l'audio qui était intéressant.
Surtout, bien sûr. Et puis, ça nous a effectivement permis de discuter sur les définitions et tout. Et par contre, ça a mis en lumière quelque chose qu'on va tout de suite dire, c'est que dans cet épisode, on va parler de la symétrie et de la symétrie. Et ça va pas être facile. Du coup, je pense que quand on parlera de ce qui est symétrique, on dira la symétrie avec un petit temps entre la et symétrie.
Voilà, une petite césure. Tandis
que quand on parlera de
l'article
ce qui est asymétrique, on dira la symétrie.
Voilà.
Donc, il faudra faire la distinction entre la symétrie et la symétrie. Voilà, ce qui risque d'être un exercice très amusant en le bêtisier.
Voilà, mais... Au pire, comme ça, on pourra dire des conneries, on ne saura pas de quel terme on parlait.
Vous n'avez pas compris, on parlait de l'inverse, ce n'est pas un contresens du tout.
C'est ça.
Et également, on en parlera aussi, parce que pour la préparation, j'avais mis moi sur Twitter, quels sont vos jeux asymétriques préférés, pourquoi, histoire de sonder un peu le terrain. Et puis, on a eu quand même pas mal de réponses, on reviendra dessus au fur et à mesure de l'émission, ou peut-être en fin d'émission sur quelques éclairages.
Tout à fait, donc on en profite pour remercier... participer, qui nous ont aidés à la préparation de cette émission, que ce soit pendant le Twitch ou pendant le...
On les citera en citant un peu ce qu'ils ont pu dire, je pense.
Voilà, comme ça, on pourra citer... Enfin, on ne va pas s'approprier leur dire.
Sauf de temps en temps, les remaniants. Mais...
Alors, juste, on fait une petite liaison avec la saison précédente, avec notre dernier numéro des thermos qu'on avait enregistré pendant le festival des Bretzels et des Jeux. Et comme on était en plein dans le jus, on s'est dit, on va faire le F comme festival. Hein, donc là, pareil, on n'avait pas forcément... on avait un petit peu improvisé ça avec Dédé et avec Cyrus. Et on a eu quelques commentaires. Non, on a eu un commentaire sur le site. Commentaire de qui?
Je ne sais pas.
Tu l'as pas noté?
Non, on va regarder vite fait.
Ouais.
Du coup, c'était Astien. Ah bah Astien, un membre de la Proxy.
Qui est devenu, qui n'était pas encore membre à l'époque, qui aujourd'hui a rejoint les rangs. Il nous a, parce que c'est vrai qu'on a un peu énuméré tous les synonymes qu'on entend dans le jargon des festivals, des salons. Et du coup, il nous a demandé, c'est quoi une convention au final? Et c'est vrai qu'on avait complètement zappé ce terme.
Ouais, la convention.
Et du coup, il nous demandait, est-ce que la convention se rapproche plus du salon ou du festival ? Alors déjà, la convention, c'est un terme déjà qu'on retrouve beaucoup plus de l'autre côté de l'Atlantique.
Et pas que dans le jeu de société. Alors, dans le jeu de société, il y a le Gen Con. La convention de Genève, non, c'est absolument pas ça. mais il y a la Gen Con, mais il y a aussi la BlizzCon, par exemple, pour Blizzard, la QuakeCon pour Quake et compagnie. Il y a sûrement la Marvel Comic Con, la Comic Con, voilà.
Ouais, donc tous les grands événements ont toujours un suffixe en con. Bah, en fait, derrière le terme convention, on a vraiment un événement organisé. On pourrait presque dire, en fait, on avait envie de dire pour les joueurs. Par les joueurs, mais c'est souvent, ça se regroupe plutôt autour d'une communauté.
Ouais, c'est ça, BlizzCon, voilà, c'est attaché à la marque Blizzard, Quake pareil. Gen Con, pour le coup, c'est un peu un contre-exemple, parce que c'est vrai que dans ce qu'on en a comme image ici, c'est quand même des éditeurs qui sont sur place, qui peuvent vendre leurs produits, mais il y a peut-être plus une notion de communauté quand même.
Et c'est surtout des joueurs corps qui se retrouvent à la,
à la Gen Con. Ouais, après, j'imagine que dans des petits festivals ou quoi, ça peut aussi être le cas. Mais
Donc, est-ce que les conventions prônent l'ouverture ou au final, elles se recentrent autour de leur communauté, tu vois ?
Bah, je pense qu'effectivement, la notion de communauté est forte, notamment parce que, par exemple, à Gen Con, les éditeurs, je crois, encore une fois, sous réserve de me tromper, mais les éditeurs vendent sur place, il me semble. Du coup, il y a aussi un côté...
Un peu mercantile,
oui. Tu l'as dit, à Essen aussi, hein, ils vendent. Ouais, donc... c'est vrai que l'idée que ça a, c'est que c'est rattaché à une marque, à une communauté. On le voit pour, par exemple pour Magic ou pour Blizzard, encore une fois, pour Marvel. Vraiment, c'est fédérer une communauté qui est déjà là de fidèles, plus qu'élargir le public, quoi, plus que dans la démocratisation du média, j'ai l'impression.
Je pense qu'avant, tu voulais aussi parler de la Star Wars Convention.
Également, oui.
Il doit y avoir des Star Trek Convention aussi. Hein, donc, c'est vraiment centré autour d'une communauté bien, bien spécifique.
Même si la Gen Con, bien sûr, bah, j'ai l'impression que tout le monde peut s'y rendre un petit peu. Mais donc, si vous avez des meilleures réponses que les nôtres, ce dont on ne doute pas, ben, effectivement, c'est plutôt utilisé, comme tu l'as dit en anglais, hein, qu'on utilise peu la convention, sauf pour la convention de Genève, mais ça n'a pas du tout le même sens pour le coup.
Ouais. Ok. Donc, on va.
Merci Astien pour ton commentaire.
Donc, on va s'attaquer maintenant au terme de cet épisode. Et comme on a un plan...
On a un plan. C'est déjà un plan à l'aide de nos amis sur Twitch aussi.
Eh bien, on va commencer par un petit peu de théorie et un peu de définition. Alors, tu nous as mis quelques...
Dans la limite du possible et du compréhensible.
Ouais, alors, t'en as mis beaucoup. Je ne sais pas si tu vas peut-être toutes les lire.
Si, on va toutes les lire. Comme ça, on ne reprochera rien. Les définitions du Larousse, hein, et alors c'est peut-être partial, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des guerres de chapelle entre les dictionnaires, je pense. Hein.
Pourquoi le Larousse, c'est pas le petit Robert ?
C'est le premier qui est tombé sur Google.
Ah oui ?
Voilà.
Alors, je crois que c'était celui que tu utilises en classe.
Non. Là, je suis avec des 3 ans, j'utilise pas encore le dictionnaire, sauf pour taper sur les enfants. Mais non. Le Larousse, on va commencer par la définition de la symétrie, donc ce qui est symétrique.
Parce qu'en fait, quand on avait nos discussions sur Twitter, on s'est rendu compte que commencer par parler d'asymétrie, eh ben en fait, c'était très compliqué et qu'il vaut mieux revenir à son antonyme et commencer par le terme « la
antonyme, symétrie ». Est-ce que c'est vraiment un antonyme ? Je ne sais pas. Ouais. On va voir. En tout cas, le Larousse nous dit que la symétrie, c'est la correspondance de position de deux ou de plusieurs éléments par rapport à un point, à un plan médian. Ça, c'est compliqué. Et la parfaite symétrie des fenêtres sur une façade, par exemple. Est-ce que déjà... La notion de propreté de la fenêtre influence sur le manque de symétrie de celle-ci.
Une fenêtre, c'est pas symétrique parce qu'elle a une poignée d'un côté, tu vois. Donc c'est pas forcément un rectangle parfait.
Mais peut-être qu'entre deux fenêtres, c'est symétrique. Ensuite, aspect harmonieux résultant de la disposition régulière équilibrée des éléments d'un ensemble. Un visage qui manque de symétrie. Je trouve l'exemple assez amusant. Mais là, déjà, on n'est plus dans l'aspect très très géométrique, très mathématique. Déjà, on s'éloigne un peu du côté mathématique et de la correspondance terme à terme vis-à-vis, enfin, si on parle de symétrie axiale déjà.
Symétrie axiale, symétrie centrale.
Hein. Il y en a plusieurs. Ouais. Mais
le
visage qui manque de symétrie, là, on peut se rapprocher du jeu puisqu'il y a marqué disposition régulière équilibrée des éléments d'un ensemble. Donc, si on parle en termes de jeu, est-ce que un certain équilibre du jeu pourrait rendre le jeu symétrique, même s'il n'est pas exactement, si un joueur n'est pas exactement symétrique de l'autre en termes de plein de choses, on verra après qu'est-ce qui peut ne pas être symétrique.
De capacité cognitive, par exemple.
Par exemple, rien que ça, déjà. Mais voilà, donc là, on s'éloigne un peu du côté mathématique. Troisième définition du Larousse pour symétrie. Répétition des organes ou des segments ou articles du corps par rapport à une ligne ou à un plan.
Ouais, bon ça...
Voilà, ça nous intéresse un peu moins. Quatrième, transformation affine qui, à un point M, associe un point M' tel que le milieu de MM' est soit un point fixe, symétrie centrale, soit un point d'une droite ou d'un plan H1, MM' étant alors parallèle à une droite ou à un plan H2, séquent avec H1. Là, on est en plein dans les maths. Là.
Ouais, on y retombe au final.
On y retombe. Et dernière définition, invariance d'une figure par une symétrie orthogonale. On dit aussi autosymétrie. Là, c'est la droite qui est la symétrique d'elle-même, en fait, aussi, il me semble, en tout cas, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Donc voilà, là, celle qui est vraiment, je trouve, peut faire un lien, c'est vraiment la deuxième. Là.
En fait, on pourrait presque tirer une notion d'égalité derrière la symétrie.
D'équilibre, en tout cas. Un équilibre égalitaire. Et élargir par rapport, par exemple, au cinéma, il y a Wes Anderson qui aime bien faire des plans avec une certaine symétrie, ou bien Greenaway dans Zoo. Il y a une impression de symétrie. Néanmoins, ce n'est pas forcément exactement symétrique. Je veux dire, il n'y a pas le même vase d'un côté et de l'autre du plan, mais il s'en dégage une impression de symétrie, même si c'est là aussi pas une correspondance terme à terme.
Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est naturellement attiré vers les choses symétriques. Hein, vers les...
Et que ça nous frappe tout de suite.
Voilà.
Mais voilà, donc symétrie, soit on part d'un côté où vraiment correspondance, soit on part vers une impression de symétrie qui est un peu moins vraie de la symétrie mathématique cette fois-ci. Et du coup, la symétrie, ce qui est asymétrique, je te laisse donner la définition qui est beaucoup plus courte finalement.
Ouais, alors ce qui est un peu bizarre, c'est parce qu'ils reprennent un terme qui était utilisé dans une des définitions. Donc quand on parle d'asymétrie, donc le contraire de la symétrie, il donne comme exemple, tout simplement, l'absence de symétrie. Donc, ce qui est asymétrique et par définition n'est pas symétrique. Et il donne comme exemple l'asymétrie du visage.
Par exemple. Parce qu'on ne peut pas être parfaitement et similaire, a priori, d'un côté ou d'un autre du visage. Si vous avez des contre-exemples, prenez des photos et envoyez-les nous.
Donc, derrière la notion d'asymétrie, il y a un manque d'équilibre, un manque d'égalité.
Ouais, un manque de correspondance terme à terme, si on veut. Voilà. Après, est-ce que asymétrie, c'est l'absence de symétrie ou est-ce que c'est dès que ce n'est pas symétrique, c'est asymétrique?
Ah, ça, on peut en discuter. Voilà. Parce que
et on va pas mal en parler, en fait, dans les jeux. Quoi.
Parce qu'il y a un autre terme, un moment qu'on avait utilisé lors de la préparation, c'était
la dissymétrie. Ouais, ça, c'est toi qui l'avais mis dans le conducteur, donc je te laisse l'expliciter.
En fait, une dissymétrie, ça va être une petite variance. Tu prends, par exemple, les exemples sur les plans cinématographiques de Wes Anderson, ils ne sont pas parfaitement symétriques. Il y a de l'équilibre de part et d'autre, mais il y a quand même de légères petites différences. Du coup, ce n'est pas une symétrie parfaite. Et du coup, j'emploierais plutôt le terme de dissymétrie dans ces cas-là. Il y a quand même une forte ressemblance, un fort équilibre avec une légère petite variante. Alors qu'une asymétrie, c'est quelque chose qui n'est... deux droites qui sont perpendiculaires, ça, c'est une asymétrie totale.
Dépend.
Alors que deux droites qui vont converger, alors je prends un exemple mathématique mais qui est peut-être un peu simpliste, mais là on est plus dans une dissymétrie pour moi.
D'accord, ouais, en fait c'est une variable soit de la symétrie, soit de la symétrie. C'est pas totalement différent, il y a quelque chose qui se ressemble, mais il y a des éléments qui sont communs des deux côtés, mais c'est pas exactement une correspondance terme à terme.
C'est ça. Et on verra comment ça peut se matérialiser dans les jeux.
Et donc, oui, parce que dans les jeux, ça va être important de se dire, est-ce que l'asymétrie, c'est le contraire d'un jeu symétrique? Donc, dès qu'un jeu n'est pas symétrique, il est asymétrique. Ou bien, est-ce que c'est une catégorie de jeu particulière? C'est ce dont on va parler. Donc, voilà, on a pu donner des petites définitions. Merci, monsieur Larousse. Et on va pouvoir donc parler maintenant. On va commencer, je crois, par les jeux, justement, entre guillemets, symétriques. Parce qu'on a vu tout de suite les limites, en fait, de cette symétrie-là.
Ouais, et surtout que des asymétries ou des dissymétries, il y en a un éventail complet. Donc, pour mettre tout le monde d'accord, on va dire, on va commencer par les jeux symétriques. Et on va se poser la question, est-ce que ça existe vraiment, en fait, un jeu totalement symétrique?
En tout cas, les premières idées qu'on a eues, ce n'étaient pas ceux qu'on va juger peut-être les plus symétriques, mais c'était effectivement les jeux où il n'y a quasiment pas de hasard, je crois. C'est ça.
Et il y a surtout une notion d'égalité face aux choix et aux actions qu'ont les joueurs.
C'est ça. Les joueurs ont tous les mêmes actions.
Ils ont tous le même matériel, ils ont tous les mêmes conditions de départ. Ils évoluent dans un ensemble qui est strictement identique. Au final, on va se retrouver avec une égalité, on va dire, un ensemble vraiment qu'une égalité parfaite en fait, entre les deux sets de chacun des
joueurs. En tout cas, une égalité de base et un potentiel égalitaire dans le jeu qui fait que chacun commence avec exactement les mêmes éléments, les mêmes possibilités, comme tu l'as dit, les mêmes actions, le même matériel, le même but du jeu. On était parti là-dessus par opposition, en fait, notamment, bon, on reviendra dessus après dans, quand on parlera des jeux asymétriques, mais sur notamment les jeux à factions ou les jeux avec des actions particulières, on était parti du coup en se disant, bon, bah, finalement, les jeux symétriques, c'est ceux qui n'ont pas tout ça, c'est ceux où les joueurs commencent tous, entre guillemets, avec la même chose, en dehors, tu l'as dit tout à l'heure, déjà de base, des facilités du joueur pour ce jeu, ce qui crée une première différence par rapport au jeu, mais dans le jeu en lui-même, dans les règles, on s'est dit, c'est ça. Et en fait, après, on va voir qu'on a remis ça en cause. Mais du coup, ça nous a évoqué les jeux traditionnels.
Ouais, on peut démarrer par cela. Hein, donc, tout ce qui est jeux de dames, jeux de go. Ok, également une variante
que les échecs. Parce qu'on s'est dit, les jeux traditionnels comme ça, en fait, déjà, le plateau en lui-même est symétrique. Il me semble, en tout cas. Donc, il y a une symétrie visuelle à ce niveau-là. Mais en plus, on a tous les mêmes pièces. Alors, dans les échecs, il y a un petit twist.
Avec la dame et le roi. Hein.
Qui est déjà là, ce qui fait que déjà ça change quelque chose. Mais dans le go, par exemple, ou dans les dames, on a tous les mêmes pièces avec les mêmes possibilités de mouvement, avec le même but et les mêmes dispositions de pièces.
Donc, voilà, tout même est... objectif surtout. Mmh. Ouais.
Et on avait dit que, malgré tout, il y avait déjà...
Il y avait une petite notion de dissymétrie qui pouvait être intégrée dans ces jeux traditionnels parce que, bah, déjà... Le premier joueur.
Rien que ça, voilà.
Et ben du coup, on n'est pas égalitaire. Parce que le fait de démarrer la partie, soit ça procure un avantage, soit un désavantage. Après, il y en a qui disent, moi, il y en a qui préfèrent commencer parce que ça.
Mais en tout cas, ça permet d'avoir une liberté totale. Ça modifie la position dans le jeu. Ouais.
Donc, déjà là, on se retrouve dans une absence de symétrie, puisque pour qu'un jeu soit totalement symétrique, il faudrait presque qu'il y ait une égalité parfaite d'espace-temps, de simultanéité. Ouais.
Du coup, on se disait, est-ce qu'il y a des jeux comme ça qui se jouent en simultané, qui remplissent toutes les conditions de ces jeux traditionnels? On n'en a pas trouvé, je crois, sur le coup, mais en tout cas, ouais, il faudrait que les joueurs jouent en même temps et que finalement il n'y ait pas entre la présence même d'un ordre du tour en fait inclut le fait de casser la symétrie qui, a priori, si on prend par exemple les dames, est là au début, avant qu'on commence à jouer, avant le début de la partie, il y a peut-être une symétrie.
Ouais, parce que t'as, en fonction du coup du premier joueur, tu as tout de suite une information supplémentaire et du coup la symétrie est cassée dès le premier tour de jeu en fait. Alors j'avais pensé à, alors je sais pas si c'est un vrai jeu de société, mais si tu prends les chiffres et des lettres, là on est dans une symétrie parfaite parce que pour le mot le plus long, bah, les deux joueurs ont l'ensemble des lettres à disposition et ils réfléchissent chacun de leur côté. Il n'y a aucun partage d'informations. Et pareil après pour la partie calcul avec les chiffres. Donc là on est dans une symétrie parfaite.
En dehors même des capacités, enfin en dehors des capacités des joueurs. Mm. Et pour continuer sur les jeux traditionnels, donc on a c'était où ? Je regarde. Ah oui, on a Théo qui nous parlait de Quarto chez Gigamic. Où, alors, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, donc ça va être un peu flou. Désolé pour ça. Mais on commence, je crois, avec les mêmes lettres. Le but est de placer. Ah non, je confonds peut-être avec Corridor. Je sais pas. Non, c'est Corridor que j'ai joué. Donc, je ne vais pas m'attarder sur Quarto parce que je risquerais de dire des bêtises. En tout cas, Théo nous parlait de Quarto, de son côté, Théo Rivière, sur Twitter. Tandis que Mitch Drapp rebondissait sur Monsieur Blue. Parce que Blue justement parlait de l'aspect non symétrique des échecs de par la disposition et par le fait qu'il y ait un ordre du tour, un premier joueur. Et il disait que pour le go, justement, le joueur qui joue en second, ben, du coup, pour rétablir entre guillemets une forme d'équilibre, on lui donne des points d'avance. Donc on ne commence pas avec le même nombre de points.
Ouais, donc là, tu as déjà une dissymétrie avant même le premier tour. Donc en voilà. Fait, pour avoir un jeu parfaitement symétrique, il faudrait presque que chacun fasse un setup. Je sais pas si on prend un jeu de go. Si tu veux jouer au jeu de go symétrique, on pourrait imaginer que chacun fait sa disposition de départ de manière masquée, sans connaître les décisions de l'autre, et que tu places, je sais pas, un certain nombre de pièces que tu prévois. Et au bout d'un temps imparti, par exemple, ben, hop, tu découvres et voici le setup de départ. Et à partir de là, on commence à jouer. Mais il y aura toujours un premier. Enfin,
c'est ça, le premier joueur. Ouais.
Il y aura toujours un premier joueur. En fait, si tu. Il faudrait. Ça serait presque un petit peu bizarre, mais pour avoir un jeu parfaitement symétrique, ça serait presque un jeu solo. Si tu prends par exemple le solitaire, tu es face à un adversaire, mais tu joues pas directement contre lui.
Ouais, ouais.
Et
c'est là qu'on va pouvoir aller justement vers ce dont parlait Blue plusieurs fois. C'est les jeux je crois que c'est à la Take It Easy, je crois que c'est dans cette veine-là, si je ne dis pas d'annerie, mais il en a cité plusieurs. Les jeux, en fait, inspirés du bingo, mais à grille identique. C'est-à-dire que dans le bingo, chaque joueur n'a pas la même grille. Du coup, le tirage est le même pour tout le monde, mais comme la grille est différente, on n'a pas... on reçoit pas tous le point au même moment. Par contre, quand la grille est identique, alors là, il y a une symétrie individuelle et une symétrie dans le tirage. Donc c'est pour ça que, par exemple, Augustus ne rentrerait pas dedans, puisqu'on a tous des critères différents à remplir. Mais du coup, là-dedans rentrerait Streams, qui est un jeu, je crois, qui a été...
J'ai pas joué.
C'était par Monster Games, je crois. En tout cas, il y avait Emmanuel Beltrando qui était là-dedans et qui était un jeu de tirage où j'ai joué il y a longtemps. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, où on tire des nombres et où il faut faire des suites les plus longues possibles. Et on tire un nombre et chacun a un petit papier où il inscrit le nombre à un endroit dans une file. En fait, c'est aussi un jeu de prise de risque. Est-ce que je me dis que je vais réussir à enchaîner tous ces nombres-là entre ces deux-là, ou bien est-ce que je le rapproche pour me libérer un peu de place ? À la fin, on score selon le nombre de suites qu'on a réussi à faire et la longueur de ces suites. Mais à chaque fois, le joueur fait un choix au moment où on tire le nombre, mais le nombre est le même pour tout le monde. Et après, il l'inscrit sur sa feuille. Après, à partir de là, la feuille de chacun est différente, puisque chacun fait des choix différents. Et là...
Et il n'y a pas de réservation. Pas comme dans Encore où tu as un tirage de dés, mais tu as un premier joueur qui peut se réserver un chiffre. Non. Toutes les possibilités sont offertes à tout le monde.
À tout le monde, c'est ça. Il y a un nombre qui est tiré, pouf, on l'écrit sur sa feuille, à l'endroit où on veut, pouf, on tire un second nombre, idem, etc. Donc il y avait celui-là, il y avait également Welcome. Et là, on voit qu'on est dans le simultané dont on parlait tout à l'heure. Donc Welcome, Welcome to your new home, selon vos obédiences, où il y a un tirage. Donc,
un tirage de trois cartes.
Trois cartes que tout le monde voit. Chacun peut prendre celle qu'il veut.
Qui est ouvert à tout le monde.
C'est-à-dire que si toi, tu prends une des combinaisons de deux cartes, je peux aussi la prendre, je peux aussi ne pas la prendre. Et donc, ces trois cartes-là, enfin, ces trois tirages-là, ces trois possibilités-là, à chaque fois, il y a un numéro qui correspond à une maison et une action qui lui est associée qu'on peut ou ne pas faire. Et il y a dû y avoir un jeu du mois, je pense, sur Welcome.
Oui, il a été présenté par Beno FX, il me semble.
On ne va pas rentrer là dans le détail des règles. Mais en tout cas, on a là aussi, comme dans Streams, tous le même plan de quartier au début. Donc, exactement symétrique dans le
setup de démarrage.
Voilà, c'est ça. La mise en place de départ est la même. Puis, les tirages sont les mêmes pour tout le monde.
Et les choix d'action sont les mêmes pour tout le monde. Et le but est le même pour tout le monde également.
Et alors, Alain, sur le chat, donc Alain Ballet qui... et Blue Cocker, et qui a édité Welcome, nous dit que cette simultanéité n'a jamais donné de feuilles identiques à la fin. C'est-à-dire que potentiellement, si on fait tous les mêmes choix au même moment, on a exactement les mêmes feuilles, avec le même choix de piscine, le même choix de parc et tout, et a priori, ce qu'il nous dit lui, c'est que malgré cette simultanéité, cette potentialité d'égalité parfaite, d'équilibre parfait à la fin de la partie, non, ça n'a jamais été le cas, parce que justement là, c'est chacun qui vient mettre sa patte là-dedans.
Par son expérience, par rapport aux objectifs. Alors, il n'a pas des objectifs personnels à remplir, mais par rapport à l'appétence qu'on a sur les différents objectifs, il y en a qui préfèrent jouer les piscines, il y en a qui préfèrent jouer les travaux, etc. Et bien là, après, c'est les sensibilités de chacun qui rajoutent de la divergence. Hein. Ouais.
Et donc, oui, je disais par rapport aux maisons, donc on va placer la maison à un endroit et faire ou non l'action qui est associée. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais à partir du moment où on a commencé à élaborer une stratégie, face au tirage qui est similaire, au tirage qui est le même pour tout le monde, on va plutôt s'orienter vers ça ou vers ça parce que le nombre de la maison nous intéresse, parce que l'action nous intéresse, parce que la combinaison des deux nous intéresse. Et donc,
on part tous d'une racine commune et après, on va étaler un arbre au final. Alors, il y a sans doute une formule mathématique qui permet de décrire ça, mais en fait, chaque feuille représentera en fait un chemin du parcours de cet arbre, de la racine, jusqu'à la feuille, jusqu'au nœud final, on va dire.
Ouais, et donc Alain toujours nous dit que en fait là dans Welcome l'élément le plus asymétrique du jeu c'est derrière le stylo, c'est le joueur quoi. C'est pas les règles en elles-mêmes, c'est pas le jeu en lui-même, c'est vraiment le joueur qui par ses choix va s'orienter, mais le jeu en lui-même peut être totalement symétrique.
Et du coup, il y a pas de frustration.
Il y en a de manière individuelle mais
Par rapport à des actions impossibles ou par rapport à des actions réservées. Parce que ça, tu vas avoir dans Encore, je ne sais pas si tu as joué.
J'ai pas joué Encore. Non.
Donc dans Encore, tu jettes des dés qui ont des chiffres et des couleurs, et le lanceur va prendre une paire, couleur plus chiffre et cocher les cases sur sa feuille.
Oui,
et du coup, les autres n'ont pas accès à cette combinaison-là. Alors que, bon, alors, le but du jeu, c'est aussi de remplir même le plus sa feuille, mais tu peux surveiller les feuilles des autres et voir des fois leur bloquer en fait et te réserver une combinaison qui t'arrange pas forcément, mais qui serait très efficace pour les autres joueurs. Donc là, du coup, tu n'as pas de symétrie.
Oui, après, il y a une frustration quand même, mais c'est plus par rapport au choix que tu as fait ou parce qu'il n'y a pas le bon truc qui tombe au moment où tu veux ou ce genre de frustration. Mais en tout cas,
je parle de la frustration par rapport à une action réservée.
Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est donc, Welcome qui se rapproche un peu d'un jeu symétrique, en fait. En tout cas, le plus symétrique qu'on puisse imaginer, puisque la seule asymétrie va effectivement venir des choix des joueurs et pas du tout, puisque on a cette simultanéité.
Parce que ouais, souvent, c'était la symétrie de temps, en fait, la symétrie temporelle qu'on n'arrivait pas à retrouver dans les autres jeux quand on voulait parler de jeux symétriques.
Et ça, également dans le même genre d'idée et proposé par Blue, c'est le fameux Scrabble Duplicate. Alors, moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ce que c'était, parce que je pensais que c'était un peu, quand il l'a expliqué, et pourtant il a été clair, hein, c'est moi qui ai mal compris, je pensais à je ne sais pas si tu vois les pandémies, les tournois de pandémie qu'ils faisaient.
Où ils reprennent le même set entre les tables, hein, c'est ça.
Dans le même ordre de cartes,
ouais.
Etc. Et où, en fait, après chacun faisait sa partie de son côté. Donc là, les équipes étaient symétriques au départ. Puisque
non, en fait, c'est les équipes sont symétriques, le deck, le tirage du deck est symétrique.
C'est ça. Mais après, selon les choix des équipes, ben, voilà, les parties n'étaient pas les mêmes du tout. Hein. Et dans Scrabble Duplicate, donc, et c'est peut-être également vrai pour d'autres jeux, hein, pour le solitaire dont tu parles, ça pourrait être le cas aussi, le solitaire compétitif. Là.
Ouais.
Alors, que je resitue, c'est en gros, à chaque mot, en fait, il y a une proposition de lettres qui est la même pour tout le monde, donc même tirage pour tout le monde, pour tous les joueurs, chacun fait sa proposition.
En même temps ? C'est
en
simultané ?
Ouais. Il y a une simultanéité de la proposition.
Ah oui, parce que sinon tu repompes. C'est un peu bête comme question.
Donc, tout le monde pense à la même. Tout le monde propose son mot. Et une fois que ça s'est fait, on garde le meilleur, qu'on place sur une grille commune, et tout le monde repart de ce meilleur mot. Donc, contrairement à Pandémie, où il y aurait une succession de différences qui s'ajoutent, en fait, l'exemple, si on devait comparer à Pandémie, ce serait où chacun a les mêmes tirages au début et puis après, ou à chaque fois le même tirage de lettres, mais où tu continues sur le mot que toi t'as proposé. Et du coup, forcément, les propositions vont être différentes et tout. Là, on prend juste la meilleure proposition. Je pense que c'est celle qui rapporte le plus de points. On la met pour tout le monde et c'est un peu comme si on repartait de zéro à partir de cette proposition. On redonne toutes les mêmes lettres à tout le monde et chacun refait sa proposition. Et chaque joueur marque quand même ses points individuels par rapport aux mots qu'ils ont proposés. Mais à chaque nouveau tour, c'est tout le monde repart à égalité. Donc là, il n'y a vraiment aucune différence qui se fait de tour en tour. Quoi.
D'accord.
Ce qui peut se faire sur Welcome, ce qui peut se faire sur Pandémie qui part tous avec le même deck. C'est assez intéressant. Et là, pour le coup, ouais, je pense que je l'ai bien expliqué. J'espère que M. Blum me confirmera que c'est de cette façon dont ça marche. Et ça reviendrait... alors pour le solitaire, ce serait plus compliqué parce qu'il faudrait décider quel est le meilleur coup. Et c'est assez délicat puisque ça va dépendre de l'ordre de la pioche et tout. Mais... D'accord, et Alain nous dit donc pour le Scrabble Duplicate que c'est forcément la meilleure proposition parce qu'elle est calculée informatiquement en plus. Donc c'est pas du fait du choix de quelqu'un. Donc là, il y a vraiment une symétrie quasiment parfaite. Quoi. Enfin, et donc on voit que tous ces jeux-là, c'est des jeux qui sont quand même inspirés du Bingo, mais à grille identique. Quoi. Donc voilà pour les...
Alors qu'on est parti d'un jeu de hasard.
Alors qu'on est parti effectivement... Mais là, le hasard n'existe plus puisqu'il est totalement contrôlé par les personnes qui organisent ça.
Et donc, si on l'a pas, je le reprécise, hein, si c'était pas très clair, on a peut-être omis de dire que dans un jeu symétrique, on a bien un objectif qui est identique entre les joueurs.
Ce qui est souvent le cas. Là, pour le coup, l'objectif commun, on va le retrouver souvent, même quand tout n'est pas symétrique. Mais donc, finalement, ces jeux-là, et le Scrabble Duplicate est peut-être celui qui s'en rapproche le plus, puisque à chaque tirage, c'est renouvelé. Cette égalité de départ, c'est presque ce qui se rapproche le plus d'un jeu à symétrie parfaite, quoi, avec une correspondance terme à terme, presque mathématique. Alors j'invite les joueurs qui sont très très curieux, on va pas vous faire on va aller voir sur Wikipédia Symmetric Game. Et là, il y avait. Ça, c'est là où il y avait plein de formules mathématiques.
Oui, ouais.
Et là, ça allait trop loin pour moi. Mais je pense qu'il y avait un intérêt à lire l'article. Et donc, ces jeux symétriques, on a vu qu'il y a plein de limites à cette symétrie parfaite. Mais l'intérêt qu'on peut y trouver, Du coup, ce serait que tout le monde a connaissance des mêmes possibilités et part sur un pied d'égalité.
Tout le monde a les mêmes chances au démarrage, en tout cas. Ouais.
En dehors des capacités du joueur, encore une fois. Et maintenant qu'on a parlé effectivement des jeux symétriques, ou qui s'en rapprochent le plus, avec les limites qu'on a donc posées, que finalement, il y a déjà rien que par le joueur en lui-même, il n'y a aucun jeu qui est exactement le même. Alors, peut-être des IA.
Il n'y en a pas beaucoup.
Peut-être si c'est des IA qui sont les mêmes, mais du coup, ils feraient la même chose forcément à chaque fois.
Sauf si elles sont en deep learning, où là, elles apprennent de leur partie l'une sur l'autre.
Et alors, quelque chose de... Justement, Alex P. sur Twitter avait dit, et là, ça semble un peu lui donner tort, c'est la symétrie est la règle et la symétrie, l'exception. Donc, les jeux symétriques, c'est plutôt la règle. Les jeux asymétriques, c'est l'exception. Bah, si on prend la définition stricte d'une symétrie correspondance terme à terme, c'est plutôt l'inverse, a priori.
Ouais, c'est les jeux dissymétriques, c'est la règle.
Voilà, c'est en fait, il n'y a quasiment aucun jeu parfaitement symétrique. Par contre, tous vont présenter des degrés d'asymétrie divers et variés. Et donc, on peut basculer justement sur l'asymétrie alors et déjà, les jeux asymétriques.
Alors déjà, on a identifié différents types d'asymétrie. Alors globalement, sur les jeux qui sont totalement asymétriques, on s'est mis d'accord sur le fait que les joueurs ont des objectifs différents. Il y a également des mises en œuvre différentes où chaque joueur va avoir des mécaniques différentes, des possibilités d'action qui sont différentes. Ils vont avoir un but différent.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment... Mais l'un n'exclut pas l'autre, où l'un n'est pas forcément en corrélation avec l'autre. Voilà, vous choisirez parmi les deux phrases celles qui correspondent le plus à ce que je vais dire à la suite. Parfois, il y a le même objectif, mais des mécaniques différentes, où chacun va avoir ses propres petites mécaniques.
Ouais.
Même si l'objectif final, ça va être en général de gagner le plus de points de victoire, de vaincre l'adversaire, que sais-je, les mécaniques vont être différentes malgré tout, bien que l'objectif soit commun. Et parfois, l'objectif va être différent, mais les mécaniques vont être similaires. Donc,
et tu vas avoir des petites variantes aussi. Ouais,
ouais, donc voilà, il y a plusieurs degrés à ce niveau-là, plusieurs choses qui se rencontrent. Donc ça, c'est les types d'asymétrie. C'est vraiment à quel moment est-ce qu'on peut rencontrer une asymétrie. Maintenant, on va voir quand intervient cette asymétrie. Par exemple, ne pas avoir le même matériel n'est pas forcément asymétrique. C'est juste pour bien dire que c'est pas le matériel différent n'est pas un type d'asymétrie. Ça peut créer de l'asymétrie si l'objectif est asymétrique, etc. Mais c'est pas.
Bah si, un matériel différent te donne des capacités d'action différentes.
Oui, mais dans l'absolu, le matériel n'est pas une catégorie d'asymétrie, tu vois, dans le jeu. C'est possiblement asymétrique. Enfin, justement, c'est plus ça intervient dans la mise en place. Le matériel est différent. Mais
tu veux parler de quel matériel ?
Le matériel de jeu. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas un type d'asymétrie, mais possiblement un élément qui va créer l'asymétrie.
Ça a l'air clair pour toi, en tout cas. Parce que si tu n'as pas le même matériel en termes de nombre, je sais pas si tu démarres avec un ouvrier de plus, bah t'as forcément.
Mais du coup, en fait, ça va être les mécaniques qui vont être différentes ou l'objectif qui va être différent. Mais le matériel, il est différent, mais c'est pas ça qui va créer le fait que le jeu soit asymétrique. Ce qui va créer le fait que le jeu soit asymétrique, c'est parce que, en fait, le matériel est une conséquence plus qu'une cause de l'asymétrie. C'est on veut faire un jeu asymétrique, et donc, comme l'objectif n'est pas le même pour tout le monde, ou comme les mécaniques, alors il faut du matériel spécifique. Mais ce n'est pas la cause de l'asymétrie, c'est plus pour moi la conséquence. Quoi.
Ouais, mais tu vois, moi je catégoriserais les jeux qui sont asymétriques comme étant les jeux qui sont vraiment totalement asymétriques.
D'accord, là on va rentrer effectivement sur toutes les nuances possibles. Et c'est effectivement.
Petites nuances de symétrie, c'est pas forcément qu'on tombe dans un jeu qui est asymétrique.
Voilà, c'est ce qu'on a pas mal discuté aussi sur le Twitch avec aussi Cyrus et Bleu, c'est à quel moment on décide qu'un jeu vraiment est asymétrique et pas juste ce que toi tu nommais dissymétrique ou.
Alors, moi, les premiers jeux asymétriques qui me viennent à l'esprit, c'est les jeux à Overlord, où t'as un joueur contre un groupe de joueurs. Où t'as le bien contre le mal, ou peu importe, hein, même si c'est le mal contre le mal, mais en tout cas, tu vas avoir des possibilités d'action qui sont totalement différentes, tu vas avoir des objectifs qui sont totalement différents également.
Et bien, Alain va dans ton sens aussi, c'est la symétrie ludique, se base sur trois points, les conditions initiales, donc ce que t'as au début de la partie, les mécaniques de base et les buts finaux. Donc voilà. Donc si on revient un peu, donc différents types d'asymétrie, les objectifs qui sont différents, la mise en œuvre qui est différente avec les mécaniques, éventuellement la mise en place qui est différente, et quand intervient l'asymétrie, justement, à quel moment est-ce que on va se rendre compte qu'un jeu n'est pas totalement symétrique. Encore une fois, là, c'est le moment où ça va être un peu délicat de se situer, parce qu'il va y avoir des jeux On va en parler, les jeux à factions, par exemple. Est-ce que c'est profondément des jeux asymétriques ou bien pas est-ce que c'est juste...
Non, pour moi, c'est des jeux dissymétriques parce que tu as le même, souvent les mêmes objectifs.
En fait, ça dépend quelle définition on va prendre de asymétrique. Est-ce que c'est, du moment que c'est pas symétrique, c'est asymétrique ? Ou bien est-ce que c'est des jeux qui, de base, sont asymétriques et qu'entre le jeu asymétrique et le jeu parfaitement symétrique, il y a toute une frange de jeux plus ou moins asymétriques et que toi, tu nommes effectivement dissymétriques. C'est là où ça va être un peu... C'est ce qui va faire tout l'intérêt aussi des jeux et qu'il va les rendre différents, c'est à quel niveau ils vont être plus ou moins asymétriques et sur quel, à quel endroit ils vont être asymétriques. Quoi. C'est...
Prenons un exemple d'autres jeux asymétriques. Où là, on n'est pas dans un overlord contre joueur, mais tu prends les jeux avec félon. Alors, que ce soit...
Chevalier de table ronde, Battlestar. Ouais.
Alors, je ne sais pas s'il y a des jeux à félon où le félon est connu dès le début.
Où on sait qu'il y a un félon ou si on sait qui est le félon.
Où on sait qui est le félon. Dans Pandémie, quand tu joues avec le bioterroriste, il est pré-identifié, non ?
Je ne sais
J'ai jamais joué avec l'extension. Mais
moi non plus, mais ça me paraît quand même retirer une bonne partie du sel du jeu. Le fait qu'on connaisse le félon dès le début.
Ouais. Donc là, du coup, on a souvent les félons, ils partagent un éventail d'actions qui est commun par rapport aux joueurs standards. C'est un peu pareil dans Archipelago. Hein. Celui qui joue l'indépendantiste, il a accès exactement aux mêmes actions. Et en plus, il a pas d'action spécifique, tu vois. Donc, il partage exactement le même setup d'actions que les autres joueurs, sauf que lui, il va avoir un objectif différent. Et c'est pourtant une grosse marge d'asymétrie qui est intégrée dans le jeu via ce mécanisme.
Juste si on veut revenir sur justement au moment où intervient l'asymétrie avant de vraiment rentrer dans les jeux qui appartiennent plutôt à telle catégorie, pourquoi est-ce qu'eux ils ont une part d'asymétrie ou pourquoi ils sont parfaitement asymétriques? Il y a le moment de la mise en place, c'est ce que tu disais. En fait, c'est dans le livret de règles à quel moment est-ce qu'on va se rendre compte. C'est mise en place, le matériel est différent et c'est à visée asymétrique. Ensuite, il y a le but du jeu. Est-ce que le but du jeu va être le même pour tout le monde? Avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, celui qui gagne le plus de points de victoire, ou bien est-ce que ça va être vaincre l'adversaire, est-ce que ça va être pour l'un, ça va être avoir 36 cacahuètes, pour l'autre, ça va être avoir 18 carottes.
Ça, c'est des objectifs différents, mais qui vont dans le même sens.
Ça dépend. Si pour faire les carottes, il faut que tu joues totalement autrement ou que c'est d'autres trucs qui vont te faire avoir les carottes, tu vas jouer totalement de manière différente de celui qui va avoir les cacahuètes, par exemple.
Ouais, mais si tu prends les jeux où chacun a un objectif caché qu'il doit remplir, c'est pas asymétrique pour autant.
Ça dépend à quel point est-ce que l'objectif va déterminer en fait la façon dont on joue le joueur. C'est ce que dit un peu aussi Alain, je pense que c'est un peu dans ce sens-là, sur le chat, c'est le critère principal, ça doit être le gameplay qui est différent selon les joueurs, donc les mécaniques. Justement, la troisième possibilité de quand intervient l'asymétrie, donc on a dit mise en place, but du jeu et troisième critère, tour de jeu et action des joueurs. En fait, si les joueurs ont des actions différentes, on va être là-dedans aussi. Et donc il dit si le gameplay est différent, le jeu peut commencer à être qualifié de vraiment asymétrique. C'est si vraiment chacun des joueurs, que l'objectif soit ou non similaire, hein, pour le coup, joue d'une manière différente parce que les règles en fait ont permis ou orienté le fait qu'ils jouent de manière différente, que ce soit avec des règles spécifiques ou. En donnant du matériel différent ou en donnant un objectif différent. Si l'objectif pour avoir les carottes ou les cacahuètes, ça donne que le joueur va jouer de telle ou telle manière, de manière totalement différente selon son objectif, ou si le matériel donné au départ va introduire le fait que le joueur va jouer de telle ou telle manière, là on est vraiment dans quelque chose de profondément différent et donc assez, peut-être asymétrique totalement, je ne sais pas.
Ouais, mais pour moi, je maintiens qu'un jeu totalement asymétrique, on est sur quelque chose qui est totalement orthogonal. Quoi.
Avec de l'opposition, en fait.
Ouais.
Ouais, d'accord. Et là, effectivement, bon, on va en parler après, mais effectivement, c'est tout ce que tu as dit. Les jeux Overlord sont profondément asymétriques parce que, en fait, c'est des jeux qui combinent à la fois un but du jeu différent, une mise en œuvre différente, des mécaniques spécifiques, du matériel spécifique. En fait, si tout ça est différent d'un joueur à l'autre ou d'un joueur à un groupe d'autres, là, on est vraiment dans une asymétrie presque parfaite. C'est rien.
Et surtout, les sensations de jeu sont totalement différentes. Entre un mec qui va jouer un Overlord et un autre qui va jouer un héros dans Imperial Assault, par exemple, ou dans, peu importe, hein, dans Descent, en fait, ton expérience de jeu va être totalement différente.
C'est ça. Mais, mine de rien, moi, je trouve que, justement, l'expérience de jeu différente, c'est la conséquence des règles fait que le jeu procure des sensations différentes. Alors c'est parfois jeu, parfois ça va être l'objectif principal de l'auteur, c'est je veux que tel joueur se sente comme ça, tel joueur se sente comme ça, tel groupe de joueurs soit comme ça, alors que l'Overlord est comme ça, ça va être peut-être ce qui va le pousser à créer des règles. Mais finalement, ces sensations-là, très importantes, je suis d'accord avec toi, hein, pour moi, ça va être vraiment ce qui va en fait faire sentir qu'on est dans un jeu asymétrique. Hein, les jeux Overlord, c'est vraiment un bon exemple. Mais ça va être la conséquence de règles, objectifs, mécaniques, enfin matériel, objectifs, mécaniques différents.
Donc là, tu parles de sensations que l'auteur essaye d'insuffler aux joueurs. Alors tu prends un joueur qui joue un Overlord. Concrètement, son but, c'est souvent de nuire en fait au groupe de joueurs. Et cependant, des fois, tu n'as pas forcément envie d'être jusqu'au boutiste dans cette nuisance. Et des fois,
de s'amuser.
Tu veux qu'ils avancent. Oui, voilà, c'est ça.
Tu veux quand même qu'ils s'amusent. Alors moi, je trouve justement que dans les jeux Overlord, et d'ailleurs, est-ce que
toi, tu dois être bien pourri non, si tu es Overlord.
Ah non, parce que mon but, c'est que les gens s'amusent aussi. Non, mais et là, je ne sais pas si on peut parler de jeux Overlord, mais c'est les jeux où en fait, l'adversaire du groupe, son but, ça ne va pas être que les joueurs n'arrivent pas à l'objectif, c'est un objectif que lui va avoir, par exemple, que les joueurs trouvent telle salle ou je ne sais quel objectif, mais qui n'est pas un objectif antinomique de l'objectif des joueurs. Ou par exemple, les joueurs se seraient trouver la salle du trône et l'objectif de l'Overlord serait que les joueurs ne trouvent pas la salle du trône. C'est pour moi, ça reste, c'est facile pour commencer
on est
comme scénario de base.
Disjoint, quoi,
alors que si l'objectif des joueurs c'est trouver la salle du trône, tandis que l'objectif de l'Overlord c'est que les joueurs entrent dans la salle de torture avant la salle du trône, là pour moi c'est beaucoup plus intéressant pour l'Overlord parce que peut-être sur. Je donne l'exemple sur un truc qui serait sous forme de campagne où le fait qu'ils rentrent dans la salle de torture aurait une conséquence narrative ou quoi. Et pour moi c'est beaucoup plus riche, un peu comme dans les jeux de rôle où c'est pas t'as réussi, c'est t'arrives à passer la fenêtre, mais tu trébuches et tu tombes dans les ronces, donc maintenant voilà, et du coup ça a une influence, enfin pour moi ce type de...
Ouais, mais un MJ il a pas d'objectif, il a pas un objectif de nuire aux joueurs, il est là pour faire avancer l'histoire
dans un jeu de rôle
ouais.
Mais dans un jeu de plateau ça peut ne pas être le cas, ça peut être de gagner, un peu comme dans Archipelago ce que tu disais, l'indépendantiste, ou dans les jeux à rôle secret où chacun a un objectif différent, c'est d'arriver à son objectif, c'est pas forcément que les autres n'y arrivent pas, c'est d'y arriver avant eux. Ou d'y arriver en parallèle d'eux. Et du coup, ouais, c'est pas forcément nuire aux joueurs, mais ça va passer par là, peut-être, pour arriver à son objectif.
De toute façon, on s'est pas posé la question, est-ce qu'il existe des jeux asymétriques où, en fin de partie, à la fois, les deux camps peuvent gagner ? Ça serait intéressant à creuser, tu vois.
Est-ce qu'il y a des jeux coopératifs, entièrement coopératifs, qui soient asymétriques ? Oui, si, sûrement, au niveau des mécaniques, remarque, je pense. Ne serait-ce que Pandémie, avec les différents rôles et les différentes actions. Mais est-ce que c'est un jeu totalement asymétrique ?
Non,
parce que l'objectif reste le même quand même. On a un peu digressé sur les jeux Overlord, mais c'est vrai que moi, je crois que toi c'est pareil, c'est quand on a commencé à parler de jeux asymétriques, c'est les premiers
qui sautent aux yeux.
Hein, donc on peut citer, pour citer quelques exemples, hein, tu as cité Descent.
Voilà, il y avait Assaut sur l'Empire.
Je ne connais pas moi, ouais. Mais ouais.
Bon, il y en a
d'autres. Il y a Conan, bien sûr.
Conan, oui.
Et alors, il y a d'autres exemples où c'est pas vraiment un Overlord, mais c'est des jeux de pure opposition. Les échecs sont un jeu de pure opposition, pourtant ils sont pas profondément asymétriques. Il y a par exemple The Whitechapel, où il y a, je sais pas si tu y as déjà joué.
Non, je connais pas.
Il y a des joueurs qui jouent les inspecteurs, et encore parmi ces joueurs-là, il y a un capitaine, je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et il y a Jack. Et là, donc l'objectif de Jack, c'est de réussir à faire ses 5 meurtres et de rentrer chez lui. Tandis que l'objectif des inspecteurs, c'est bien sûr de trouver Jack.
Ok.
Les mécaniques vont être très différentes puisque, enfin, les deux vont devoir se déplacer sur la carte, mais ils ont chacun des rôles différents. Mais là, on n'est pas à proprement parler. Jack n'est pas vraiment un Overlord puisqu'il va pas faire poupée des figurines, etc. Il va.
C'est un peu un félon en couverture.
Ça ressemble un peu à Scotland Yard aussi, ouais. Si tu veux. Okay. Donc là, on a ça et on a un jeu que Monsieur Blue.
Scotland Yard est asymétrique.
Tout à fait, ouais. Mais je préfère l'aide de Whitechapel, c'est pour ça que j'ai préféré citer celui-là. Mais on peut aussi citer un jeu que Monsieur Blue a. Forcé à répéter et répéter pendant la préparation de cet épisode, et qui est, je te laisse annoncer.
Lequel ?
C'est Claustro, tu sais.
Ah, Claustrophobia, ouais.
Ouais. Je sais pas si tu y as joué.
Non, j'ai pas joué.
Donc il va ressortir par Monolith, là, 1648, je sais plus la date exacte.
Ouais, bientôt. Via Kickstarter. Bientôt sur Kickstarter.
Avec des figurines non peintes.
Alors qu'elles l'étaient dans la boîte de base.
Elles étaient pré-peintes,
ouais.
Mais elles étaient un peu moins jolies.
Enfin, dans la boîte de base, la boîte initiale. Enfin, l'édition originale.
D'ailleurs, j'ai trouvé, bon, on digresse encore, mais très étonnant leur communication à dire « Ah oui, d'accord, elle n'est pas prépeinte, mais regardez qu'elle est belle. Enfin, » de mettre en avant un truc qui était dans la boîte de base, mais qui ne l'est plus, même si effectivement les figurines sont beaucoup plus jolies.
Bah après, ouais, la qualité, peut-être ça va jouer sur la qualité des figurines.
Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais je trouvais juste bizarre de mettre en avant un truc qui a en moins pour communiquer. Enfin, en tout cas, donc, claustrophobia, qui effectivement, je trouve... alors, renseignez-vous auprès de M. Blu pour plus de détails, mais c'est un très bon exemple, puisque c'est un jeu à deux joueurs, d'opposition, où chaque joueur va avoir un objectif différent et où le gameplay va être mené de manière différente puisque...
T'as pas les mêmes actions. Ouais.
C'est ça. Mmh. C'est, le joueur va attribuer les dés qu'il lance qui vont lui permettre de faire certaines actions à ses personnages, tandis que l'Overlord, je crois qu'il attribue, je sais plus, c'est un dé ou plusieurs dés, mais pour faire aussi d'autres types d'actions. Et donc, même si la mécanique est de lancer le dé, c'est...
Est-ce que c'est légitime de parler d'Overlord dans un jeu à... Tu vois, parce que moi, l'Overlord, c'est un contre N joueurs.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, là, c'est aussi dans le côté où il l'utilise. En fait, il est au-dessus. Il active plusieurs créatures, plusieurs types d'unités et tout. Et il n'a pas un personnage personnellement, mais je comprends pourquoi est-ce que ça peut te déranger. J'aurais aussi du mal, c'est un jeu d'opposition, quoi. Plus qu'un jeu à Overlord, je dirais.
Ouais.
Mais effectivement, celui-là est en tout cas assez haut dans l'échelle de la symétrie, puisqu'il y a objectifs différents, mise en place différente, mécanique de lancer de dés similaire, mais attribution qui va donner des actions spécifiques. Donc effectivement, il me paraissait assez pertinent.
Et toi, tu voulais, à un moment, tu avais cité, et je crois qu'on ne l'a pas retenu, ou on l'a mis dans les jeux où il peut y avoir de la symétrie, c'est Twilight Struggle, aussi un jeu d'opposition à deux joueurs.
Là, c'est toi qui vas dire pourquoi, est-ce que c'est ou non, parce que moi, je le connais très mal, alors que toi, tu as un niveau stratosphérique pour Twilight Struggle.
Peut-être pas jusque-là, mais...
Avec les Américains.
Ouais. Bah là, pour le coup, on est dans des objectifs qui sont identiques en fonction des factions. Donc, on n'a pas ce niveau-là de la symétrie.
On n'a pas cette symétrie d'objectif.
Par contre, qui est différent, qui est très différent. Donc là, on a déjà de la dissymétrie qui est mise en place. Et en termes d'action, eh ben en fait, on a les mêmes actions possibles. Alors, ceci dit, c'est un card-driven. Donc, les actions que tu vas déclencher vont avoir des effets spéciaux par ces cartes et qui dépendent de ton tirage. Donc, clairement, on n'est pas dans un jeu symétrique. Clairement, on n'est pas dans un jeu asymétrique totalement. Donc, on est dans un jeu dissymétrique.
On est dans ces fameux jeux entre deux. En fait, il faudrait faire effectivement... Alors, j'invite aussi les auditeurs... En préparant l'émission, je me suis retrouvé sur les forums Trick Track où il y avait plusieurs sujets qui traitaient de la symétrie ou la symétrie dans un jeu et où ils essayaient de déterminer...
Une échelle ?
Ouais, un rang 1. Je crois qu'il y avait sur un des sujets 5 rangs d'asymétrie où c'était asymétrique, semi-asymétrique. Enfin, il y avait plusieurs comme ça, variantes. Nuance en tout cas dans l'asymétrie. Et effectivement, jusqu'à arriver à l'asymétrie totale qui est un peu... celle où tout est différent, l'objectif, la manière de les mettre en œuvre, le matériel et tout ça. Il y a effectivement des nuances à apporter. Et c'est ce qu'on...
Après, on peut parler, on peut utiliser les nuances par rapport aux trois catégories d'asymétrie qu'on a citées juste avant. Hein, donc...
Ça, c'est des catégories d'asymétrie. Ouais. Et après, à l'intérieur de celle-ci, est-ce que c'est vraiment des actions qui n'ont rien à voir ou bien c'est des actions similaires mais avec des petites nuances ? Si on veut encore citer comme ça juste quelques noms. Dans les trucs relativement asymétriques, il y a tous les jeux un peu à félon dont tu parlais ou à identité secrète, que ce soit Agent Trouble, fait écarter Ghost of New York, Insider, et tout ça, c'est des jeux où on va avoir le sentiment.
Codename, à un moment, on voulait parler.
Ouais. Alors, est-ce que c'est plus dans le rôle, enfin, dans une même équipe, les rôles ne sont pas les mêmes. Là, il y a une asymétrie entre l'espion et ceux qui doivent deviner. Mm. Mais
là, pour le coup, on a un objectif commun.
Ouais, voilà. Ouais. Alors que Fake Artist ou Insider, comme on essaie de, entre guillemets, s'infiltrer, on a vraiment l'objectif de deviner les autres ou de ne pas se faire repérer. Il y a ce sentiment qu'on peut retrouver, dans les Agents Troubles également, les sensations de jeu vont être extrêmement différentes entre l'espion et les autres. Et les mécaniques de jeu vont se rapprocher, mais le but derrière n'est pas le même, les sensations ne sont pas les mêmes, le matériel n'est pas forcément le même, puisque dans Agent Trouble, on n'a pas la même carte de départ, par exemple.
Bah ouais, c'est ton setup. En fait, c'est ton setup, c'est ton objectif, pour le coup. Mais t'as tes actions qui sont identiques.
C'est ça. Mais la façon dont tu vas les mettre en œuvre n'est pas la même, parce que tu n'as pas le même but. Donc il y avait Not Alone, qui est aussi un jeu à Overlord pour le coup, mais ouais. C'est rigolo parce que quand on parle de jeu Overlord, on pense jeu figurine en fait, alors que pas forcément. Et donc Not Alone. Et il y avait un exemple, il y avait aussi, j'ai vu pas mal que dans le vieux monde où chaque joueur a une faction, du matériel spécifique, des actions spécifiques. J'y ai pas joué, donc je vais pas m'attarder dessus, mais je l'ai vu quand même plusieurs fois cité. Il y a la bataille des 5 armées, mais là on se retrouve un peu comme dans Clause 3, un jeu vraiment d'opposition un contre un.
Ouais, sans oublier Dead of Winter, hein, qui est quand même un jeu à félon avec de la, bah, du coup de la dissymétrie. Ou même carrément, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu asymétrique ?
Je sais pas, parce qu'il y a quand même l'objectif commun qui est assez important, mais en même temps...
Sauf pour le traître, lui il l'a pas à le remplir.
Ouais, mais alors là, dans ce cas-là, on est juste dans les jeux à félon. Mais ce qui est en plus dans Dead of Winter par rapport par exemple au Chevalier de la Table Ronde, où il y a le félon qui a son propre objectif, c'est que chaque joueur a un objectif particulier quand même. Je crois dans Dead of Winter, si je dis pas de bêtises.
Mais ça, c'est juste une inclusion mécanique pour justifier que ou pour rajouter en fait de la suspicion.
Ouais. Oui, il y a pas.
C'est comme ça que je l'interprète.
Il y en a pas un qui gagne plus s'il arrive son objectif. Son objectif personnel.
Non, si c'est vraiment toi qui gagne. Si tu réussis c'est à ça. La fois l'objectif commun.
Ouais.
En fait, t'as le premier palier, c'est l'objectif commun à remplir. Et pour gagner réellement la partie, il faut remplir son objectif perso.
Un peu comme dans Naufragé aussi. Ouais.
Ouais, mais en fait, on s'en fout de gagner son objectif perso. Le but de cet objectif perso, c'est de rajouter du gameplay qui fait croire que tu vas à l'encontre de l'objectif commun.
Mais...
Moi, c'est comme ça que je...
Ouais, tu le vois comme ça parce que tu le joues plutôt en coop. Mais si tu mets des joueurs qui le jouent en compétitif et que chacun veut gagner son objectif pour être le gagnant de la partie... Là, là, on rentre dans quelque chose de plus asymétrique que si tu enlevais finalement ses objectifs.
Bah, tu vois, je peux te parler par exemple d'une partie d'Archipelago que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où là, c'était tellement compétitif comme jeu, c'est qu'on a, en fait, on a tous perdu ensemble, alors que on avait la, en fait, on s'est fait rattraper par la révolte. En fait, on a un niveau de menace qui monte, et à chaque tour, en fait, on peut réduire ce taux de menace. Et en fait, des joueurs ont préféré ne pas participer à la réduction de la menace et du coup faire perdre tout le monde plutôt que de dépenser leurs ressources, alors qu'ils n'avaient aucun intérêt à perdre. Tu vois. Donc là, en fait, on est dans le paroxysme de la compétition dans des jeux où il y a de la collaboration.
Ouais, oui, mais c'est pas un jeu coopératif, alors que Dead of Winter est vu comme un coopératif quand même pour les joueurs, sauf le félon. Mais justement, je trouve que ce en quoi il se distingue des autres jeux à félon, c'est si tu veux le jouer en mode compétitif, et dans ce cas-là, c'est assez chaud. Comme dans Naufragé, si à un moment tu coopères pas, ben c'est chaud. Mais
les menaces sont tellement fortes.
Ouais, voilà. Ouais, je veux dire, l'important, c'est pas donner sur l'objectif individuel, mais si tu le joues comme ça, ben ça rajoute un peu d'asymétrie encore, parce que tu vas le viser principalement ton objectif personnel, quitte à faire foirer tout le monde. Parce que c'est aussi un coopératif, c'était Mysterium. C'est-à-dire que. C'est trouver Cluedo, quoi.
Ouais. Voilà.
Mais où la mise en œuvre est totalement différente selon que tu es un médium ou le fantôme.
Et les actions, forcément, aussi sont différentes.
C'est ça. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses différentes. La mise en place, même le fait de pouvoir parler ou non. C'était un exemple intéressant parce que ça fait partie de ces coops à forte dose d'asymétrie, quand même, quoi, en termes de sens. Et on le retrouve, du coup, dans les sensations de jeu qui ne sont pas du tout les mêmes, que tu sois fantôme ou médium.
Mais là, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même objectif. Enfin, c'est l'objectif commun. Ouais.
C'est ça. C'est ça. Et puis, si t'es fantôme, ben, tu dois réfléchir d'une certaine manière et tu communiques pas. Alors que si t'es joueur, tu reçois les informations du fantôme, tu essayes d'en déduire quelque chose, tu discutes avec les autres joueurs et donc tu fais des suppositions. Donc, c'est quand même vraiment deux mécaniques très très différentes, pas opposées, parce que opposées, je supposerais que ce soit l'inverse, mais vraiment différentes, quoi.
Ouais, du coup, si c'était opposé, il faudrait que le fantôme surtout ne donne aucun indice. C'est ça. C'est déjà chaud de donner les indices, alors. Faire perdre les joueurs, ça sera encore plus simple.
Et pour rebondir sur le côté jeu à félon, j'avais vu sur Trick Track justement des gens qui disaient où l'asymétrie, alors on va voir que ça peut arriver plusieurs fois et qu'en fait c'était une des limites, c'est que l'asymétrie se crée dans la partie. C'est par exemple, mais là c'est de manière assez forte, c'est quand par exemple dans Battlestar Galactica, tu es dans une forme entre guillemets hein, de symétrie. C'est-à-dire que tout le monde a le même but, les mêmes mécaniques, et tu deviens silon au cours de la partie. Et du coup, là, l'asymétrie intervient de manière assez forte. Pendant la partie, il y a aussi dans Shadowhunters, où il y a de base, de toute façon, une asymétrie, parce que chacun a son rôle. Mm-hmm. Mais tu vas modifier un peu ça, enfin la renforcer, disons. C'est pas la créer, c'est plus la renforcer.
Chacun a son rôle et son objectif, du coup.
Mais si tu révèles ton rôle, notamment si tu es un neutre et que tu as un objectif particulier, tu vas renforcer cette asymétrie en la révélant aux autres et en disant. Et du coup, dans la partie, ça va se ressentir quoi, au niveau des actions de chacun. Quoi. Et ça, ça intervient aussi en cours de partie pour le coup. Et après, on peut parler juste pour finir des. Enfin, pour finir en tout cas, oui, pour principalement terminer sur les exemples de jeux. Sur les jeux, on en a aussi parlé très vite, mine de rien. Tu as très vite nommé Size dans les jeux que tu jugeais avec une dose d'asymétrie, en tout cas.
Ouais, donc un jeu dissymétrique, puisque les plateaux actions, en fait, chaque joueur a accès aux mêmes actions, mais en fait, elles ne sont pas combinées de la même manière. Donc, en fait, lorsque tu choisis
l'objectif
une action,
reste le même.
Alors, les objectifs globaux restent les mêmes. Tu as néanmoins quand même un objectif personnel qui rajoute un peu de dissymétrie, du coup.
On peut dire un peu d'asymétrie. C'est juste pas un jeu, c'est pas un jeu totalement asymétrique, ouais. Effectivement, mais en tout cas, c'est des éléments d'asymétrie, en fait, dans un jeu qui ne l'est pas forcément entièrement.
Mais là, tu as des éléments de dissymétrie au niveau des actions. Parce qu'en fait, parce que quand tu choisis une action, t'as deux sous-catégories, en fait. T'as une action A, une action B. Et en fait, sur les plateaux des joueurs, la combinaison des actions A et B ne sont pas les mêmes. Donc, si par exemple, moi, je choisis l'option de produire des ressources, eh ben, j'ai accès à une deuxième action qui serait, par exemple, construire un mecha. Mais chez un autre joueur, son action bis, lui, ça sera peut-être venir construire un bâtiment, tu vois. Donc là, déjà, tu as de la dissymétrie d'action, donc ton setup de départ n'est pas le même. Et en plus, tu joues une faction différente qui, elle-même, a un setup de départ différent. Donc, tu as encore des pouvoirs particuliers, des ressources de départ différentes. Donc, tu as encore de la dissymétrie.
Et qui va mettre des sensations différentes pour chaque joueur, même si, dans l'absolu, les actions sont les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les jeux à factions, je trouve. Cette impression d'asymétrie revient souvent, je trouve, dans les jeux à factions, même si elle n'est pas totale, dans un jeu à Overlord, par exemple.
Mais à quoi ça sert ?
Parler après, effectivement, de ce qu'on a des ressentis. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas si on veut reprendre d'autres exemples de jeux à factions, dans la partie Imperial Settlers,
ouais.
Donc Settlers en français tout court, où, pareil, il y a aussi quelques spécificités de factions qui ne vont pas rendre le jeu asymétrique pour autant, mais qui sont des éléments d'asymétrie.
Tu as un setup de départ qui est différent, les ressources que tu pourras conserver d'un tour sur l'autre sont différentes, donc là aussi tu as un peu de dissymétrie, et aussi tu as ton deck de cartes.
Oui,
tu as le deck commun dans lequel tu peux piocher, et tu as ton deck de factions auquel seulement toi tu as accès, avec des pouvoirs qui sont vraiment spécifiques à ta faction. Donc là on est clairement dans un jeu à factions dissymétrique.
Oui, avec pas mal d'éléments asymétriques, mais...
Et après, la question qu'on se pose, c'est souvent l'équilibrage. Tu vois. Au final, est-ce que les joueurs ont tous les mêmes chances dans ce type de jeu ?
Oui, alors là, ça va être une question d'équilibrage plus que de est-ce que c'est asymétrique ou pas. Donc ouais, dans les jeux à factions, mais c'est vraiment des éléments quand même. Mais tu vois, dans Settlers, tu joues une autre faction, t'as pas l'impression de jouer à un autre jeu ou de jouer totalement différemment. Tu retrouves quand même des sensations que tu joues avec une autre faction. Là où quand tu joues Overlord, dans Mysterium ou dans Conan, t'as vraiment l'impression de jouer à autre chose. Quoi. Donc la trait est vraiment plus forte, comme dans Settlers. Tu vas jouer un peu de manière... Il va y avoir des nuances, mais ça ne rend pas le jeu totalement asymétrique.
C'est une petite variation, ouais.
Les sensations ne sont pas entièrement différentes. Pareil pour un autre exemple.
Tu vas quand même privilégier dans Sight certaines actions par rapport à ta faction.
Bien sûr.
Donc tu vas opter pour des choix stratégiques qui seront différents d'une partie sur l'autre en fonction de ta faction. Et tu vas te rendre compte que certaines marchent mieux que d'autres.
Il y avait aussi tout ce qui est, par exemple, Seven Wonders, le fait de commencer avec telle merveille et telle ressource va te pousser, entre guillemets, ou en tout cas te proposer d'aller plutôt dans telle ou telle direction. Mais néanmoins, tu n'es pas obligé de le faire. Et tu joues avec une autre merveille, tu n'as pas l'impression de jouer à un autre jeu. Pareil pour Terra Mystica aussi, j'imagine Gaia Project, je pense que quel descendant, enfin le suite.
En fait, ça serait presque ramener ça à un objectif final différent.
Je sais pas, parce que l'objectif final reste le même. Mais
Ouais, mais t'as un objectif de conduire une stratégie par rapport à ton setup initial.
Voilà, ça va introduire, en fait, ce setup initial va pas rendre le jeu asymétrique, mais va introduire des nuances dans la façon de jouer. Pour moi, c'est vraiment des petits éléments d'asymétrie, mais qui ne rendent pas le jeu asymétrique au niveau d'un, par exemple, de Whitechapel, ou qu'on n'a pas cité et qui est très important, Netrunner. Quand même.
Oui.
On ne l'a pas cité pourtant celui-là comme jeu asymétrique. Le but c'est de vaincre l'adversaire. Là on est encore dans un jeu d'opposition, mais les mécaniques vont être très différentes, la façon de jouer. Et là tu le sens tellement quand tu joues. C'est Corpo ou.
Corpo contre les runners.
Ouais, c'est ça. Tu sens vraiment l'asymétrie forte.
Et c'est tellement fort que le set de règles est totalement différent entre les deux joueurs. Limite, tu pourrais te dire, moi, je vais toujours jouer Corpo, et d'autres joueurs préfèrent jouer Runner, tu vois.
Oui, clairement, oui, voilà, tu vois, ça va déterminer. Ah, j'aime pas jouer un Android Netrunner en tant que Corpo, par contre, j'adore jouer Runner ou l'inverse. Ouais. Et c'est vraiment très fort comme marqueur d'asymétrie. Là où Settlers, bon, tu préfères peut-être un petit peu jouer Romain que Barbare, mais bon, dans l'absolu, tu joues quand même à peu près au même jeu.
C'est ça. Donc là, on revient hein, sur la notion de sensation de gameplay, hein, d'émotion que peut avoir un joueur en jouant un camp ou un autre.
Alain, donc, sur le chat, nous redit aussi qu'il y a un autre type d'asymétrie qui est celle qui est intrinsèque au jeu et externe au joueur, donc qui n'a pas qui n'est pas impacté par le joueur, a priori. Et il dit dans Save the Meeple, donc, qui n'est pas encore sorti, qui sortira chez Blue Cocker, les actions des joueurs vont permettre deux fins de jeu, possibles différentes qui entraînent du scoring totalement différent pour tout le monde. Donc c'est dans les règles du jeu, en fait. Selon les actions des joueurs, j'imagine que c'est dans ce sens-là, selon les actions des joueurs par rapport aux règles qui sont mises en place, ça va entraîner des différences dans la partie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends à ce niveau-là. Je pense qu'on a, là, on voit vraiment qu'il y a pas mal d'échelles différentes dans la symétrie, que les éléments peuvent être asymétriques à différents endroits. Et provoquer des sensations où on se dit le jeu est asymétrique ou le jeu n'est pas entièrement asymétrique. Je veux dire, t'as quand même l'impression qu'on joue à peu près tous au même jeu, mais il y a quand même quelques éléments qui vont, notamment les factions par exemple, ou les rôles secrets, voilà, qui font que va y avoir.
Qui font que t'as un objectif différent et du coup tu joues même en si t'as pas les mêmes actions, t'as l'impression de pas exactement jouer au même jeu que les autres ou pas aller dans le même sens d'action que les autres.
Et Alain nous redit, oui, c'est le jeu qui devient asymétrique sans être forcément au départ. Le jeu n'est pas, il y a peut-être quelques éléments d'asymétrie, mais il n'est pas asymétrique fortement, mais il le devient en fait au cours de la partie. Après, on va peut-être finir sur effectivement les sensations et ce qui fait qu'on aime ou pas les éléments d'asymétrie. On a mis de côté un truc rapidement dans la préparation, mais qu'en gros, avec l'exemple notamment des deck building. Et donc, ouais, on avait mis de côté le fait que, par exemple, dans le deck building, qui était un bon exemple, c'est-à-dire que, de base, le jeu est exactement symétrique, un peu comme dans le Go ou les Dames.
À ceci près,
pas le Go, mais...
que tu démarres avec le même deck initial.
Voilà, mais c'est pour ça que je dis de base.
De base,
base, avant que tu pioches. T'as exactement les mêmes cartes dans ton deck, que ce soit dans Ascension, dans Dominion. Dans Dominion, elle a les mêmes cartes au milieu de la table. Dans Ascension, elle a la même rivière pour tout le monde. Mais dès la pioche, le fait de commencer dans Ascension avec 5 apprentis ou avec 3 apprentis et 2 milices, et que l'autre n'est pas la même main...
Ou dans Dominion, ou dans Star Realms, d'avoir que les vaisseaux qui te rapportent de l'argent et pas ceux qui font des points de dégâts sur l'adversaire.
Et ça va entraîner une forte asymétrie immédiate, c'est-à-dire que chacun va commencer totalement différemment et dans Ascension d'autant plus que le premier joueur va prendre telle carte dans la rivière, donc va y en avoir une autre. Et petit à petit, avec les cartes que tu as dans ton deck,
surtout que tu as un deuxième niveau de dissymétrie qui va rentrer en ligne de compte, c'est le premier joueur qui va faire son premier achat. Alors déjà, ça va être le premier à décider. Et en plus, le joueur suivant, il va conditionner son achat peut-être par rapport à l'achat du premier joueur.
Lui, il est parti sur taper les monstres. Je vais plutôt aller
faire de la défense. Il a pris tel pouvoir qui va me nuire. Moi, je vais essayer de prendre un pouvoir qui est antagoniste. Donc déjà là, et là la dissymétrie, elle est encore d'autant plus
rompue. Et petit à petit, dans la partie, chaque joueur va avoir un deck très personnel et donc totalement différent et une manière de jouer totalement différente. Et si tu te fais un deck... je reprends l'exemple d'Ascension lié à la vie ou un deck artefact ou un deck que sais-je, les sensations de jeu vont être vraiment différentes pour le coup. Et pareil dans Dominion, si tu fais un deck meule ou tu vas faire tourner ton deck 3 fois pour ou si tu te fais un deck très épuré, les sensations vont être très différentes. Et donc,
et après, c'est aussi par rapport aux sensibilités des joueurs.
Ah oui,
si toi t'as envie de, si t'es un joueur qui est très agressif, t'as envie de t'orienter vers un deck agressif, alors qu'un autre joueur qui préfère jouer de la défense ou les stratégies alternatives, de par ses propres sensibilités, il va intégrer de l'asymétrie dans les choix, dans la composition de son deck à cause de ses choix.
Oui, bien sûr. Et donc, oui, voilà, donc le deck building est un jeu qui devient de plus en plus asymétrique, là où il part avec une symétrie totale et qui est brisée dès... En fait, c'est ce qu'on avait mis un peu de côté aussi, c'est que, en fait, dès qu'il y a une intervention un peu du hasard, que ce soit un tirage de cartes, que ce soit un lancer de dés, ça casse une symétrie. Donc, c'est la symétrie, c'est le bris de la symétrie, c'est pas l'opposition de la symétrie, c'est dès que c'est plus symétrique, c'est asymétrique. C'est pas forcément des jeux asymétriques à proprement parler.
C'est la présence de facteurs extérieurs qui viennent rompre certes.
Voilà, mais en tout cas, ça crée des éléments d'asymétrie. Et après, donc voilà, les jeux asymétriques, on a dit, hein, c'est difficile de définir. En fait, il y a quasiment pas de jeux proprement symétriques. Et Alain n'est pas d'accord effectivement sur lier le hasard et l'asymétrie. C'est pour ça qu'on l'avait mis de côté, mais c'est Cyrus nous avait dit aussi pareil, c'est pas vraiment le hasard qui crée l'asymétrie, mais c'est quand le hasard entraîne un changement chez un joueur, à ce moment-là, là ça crée de l'asymétrie, alors que si on savait, comme dans le Scrabble duplicate, si on avait tous exactement tout le temps les mêmes, il y aurait une forme de symétrie. C'est pas le hasard qui crée la symétrie en lui-même, quoi. Mais
ouais, et Alain, il dit que Welcome a du hasard, bien mais sûr. Au final, c'est pas du hasard qui concerne. C'est le même hasard pour tout le monde. C'est du hasard partagé.
Alors, quand un joueur lance un dé, c'est ce que disait aussi Cyrus lors de la préparation, c'est chacun a une chance sur 6 de faire tel nombre. Donc, finalement, le hasard est partagé par tous. Par contre, le résultat du dé, quand tu le lances, va entraîner des changements dans ton jeu qui vont créer une asymétrie potentielle.
Si par contre, il y a un joueur qui avait un dé à 4 faces et un autre joueur un dé à 6 faces, là, on serait directement dans une dissymétrie pré-lancée.
Ouais. Donc, c'est effectivement la gestion du hasard qui va créer qui va faire sens. Donc, si on veut finir sur les sensations, je sais pas si toi, si... Donc, on a dit, hein, les jeux asymétriques, encore une fois, totalement asymétriques, ce serait où tout est différent, but du jeu, matériel de jeu, mécanique de jeu, là, on serait dans l'asymétrie maximum. Et après, jusqu'au jeu symétrique parfaitement, dont le plus proche serait peut-être le Scrabble Duplicate, hein, on a dit. Bah, y a plein d'échelles et plein d'éléments qui peuvent être plus ou moins asymétriques. Et alors, toi, est-ce que tu aimes les jeux asymétriques et pourquoi ?
Les jeux totalement asymétriques, je joue principalement qu'aux jeux à Overlord, où généralement je suis l'Overlord, parce que généralement ça implique
c'est toi qui connais le jeu.
C'est celui qui connaît le mieux le jeu qui joue souvent l'Overlord, hein, parce qu'il il est seul souvent à gérer son propre camp et il doit faire gaffe aux points de règle qui sont joués par les autres joueurs également. Donc tu es obligé d'avoir une connaissance globale du jeu. Alors que quelqu'un qui va jouer un héros dans Descent, il a pas forcément besoin de savoir, de connaître les règles de l'Overlord, hein, au final. Après, en termes de sensation de jeu, l'idée des jeux à faction, ça permet aussi de personnaliser un petit peu l'expérience de jeu et te dire que les sensations de jeu que je vais avoir à cause de ma faction sont pas les mêmes de celles des autres joueurs.
Et on retrouve ça dans les jeux vidéo, dans les Civ par exemple, où si tu prends tel peuple, alors que, ou même dans Age of Empires ou que sais-je, tu ne vas pas jouer de la même façon et ça va vraiment jouer sur la façon dont tu joues.
Voilà, tu as un peuple qui va, je ne sais pas, dans Age of Empires qui est spécialisé dans les flottes maritimes, tu vas peut-être plus profiter de cet avantage pour t'étendre sur la flotte par exemple.
Et donc toi, c'est quelque chose que tu aimes plutôt, ouais, les jeux comme ça à faction ou plus profondément asymétriques que juste à faction mais...
Ouais, c'est surtout pour un petit peu personnaliser l'expérience de jeu et dire que...
Individualiser
un petit peu, ouais. Sans aller dans l'expérience unique, hein, avec
le Legacy.
Voilà, ouais, c'est ça.
Ou Keyforge. Ouais, moi, c'est aussi quelque chose que j'aime assez parce que, comme tu l'as dit, ça permet de créer un peu des différences entre les parties. Alain nous dit aussi sur le chat que justement qu'est-ce que va apporter la symétrie, alors là c'est ce que nous on va y mettre dedans, mais ce que ça apporte c'est effectivement potentiellement si t'as 26 milliards de factions ou si t'as je sais pas 26 milliards de rôles de mécaniques et tout, potentiellement de la rejouabilité, c'est si tu rejoues avec une autre faction et que ça a vraiment une différence, ça va te pousser pour maîtriser chaque faction à rejouer. Donc lui il dit la symétrie ça peut apporter de la richesse et de la durée de vie. Ça va avec la rejouabilité, hein, le plaisir pris par le fait de découvrir de plus en plus de profondeur un jeu. Donc ouais, moi, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible aussi au niveau de la narration. C'est ce que tu disais aussi, pour le coup, c'est avoir l'impression de... tu vois, tu disais avec les factions, d'un point de vue mécanique, déjà le plaisir de jeu, mais aussi...
Le plaisir de... je sais pas, tu peux avoir des sensibilités pour certains pouvoirs ou apprécier certains effets des factions dans Settlers, par exemple, et dire, ah ouais, ça... j'aime bien capitaliser, je sais pas, sur les pillages, par exemple, parce que...
Ou bien être barbare et avoir plein de monde.
Voilà, c'est ça. Après, ça, c'est de l'appétence par rapport à une mécanique de
ouais.
jeu.
Ouais, ouais. Mais il y a aussi, ouais, moi, je trouve vraiment un côté, et notamment dans, par exemple, les jeux Overlord, c'est que tu vas pas vivre la même histoire. La partie va pas raconter la même chose, et quand tu pourras raconter après la partie, un peu comme dans un jeu vidéo comme, je sais pas, Fallout ou Breath of the Wild, pour prendre deux exemples aux mécaniques très différentes, quand tu as fait le même jeu avec des joueurs différents, en fait, tu n'as pas vécu la même histoire. Et là, dans le jeu de société, cette asymétrie peut aussi mener à des histoires différentes, le fait de vivre la partie de manière différente, parce que dans les règles, donc très mécaniquement, tout a été fait pour que, et là, l'auteur a réussi, c'est pour que chacun des joueurs vive la partie de manière différente. C'est pour ça que certains joueurs n'aiment pas jouer le fantôme à Mysterium, tandis que d'autres adorent ça. Et que des fois, tu as l'impression, punaise, pourtant je vous ai donné les bons indices, ouais, ça, mais nous, ouais. On les a mal reçus, ou bien... donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime assez aussi, en général. Et également... Non, c'était bon, je crois.
Ouais, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question.
Ouais, bon, encore une fois, hein, voilà.
N'hésitez pas à revenir dessus. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre définition de l'asymétrie, de la dissymétrie, ou de la symétrie... Voilà. Mais toi, t'aimes pas le terme dissymétrie.
Non, j'ai moi, je dis des degrés d'asymétrie. Moi, ouais. J'utilise ou des nuances ou des éléments asymétriques. Mais surtout si vous avez des éléments qui permettraient en fait de définir tel jeu est au niveau 3 de l'asymétrie, au niveau 4, combien de niveaux est-ce qu'on mettrait, est-ce qu'on en mettrait 10, 5, etc. On va peut-être finir sur quelques réactions Twitter qu'on n'a pas citées pendant l'émission.
Il y a Alain qui dit que ça ressemble trop à dysenterie.
Ouais, dissymétrie, ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu. Donc je te laisse un peu juste name-dropper les gens qui voulaient avoir la fame en étant cités dans le
Proxy. Ouais, on remercie Paul Gara, Acariatre, Ugluc.
Alors peut-être juste dire ce qu'ils ont dit. Paul Gara, c'était sur Mytho.
Ouais.
Qui est, alors j'ai pas joué pour le coup, mais un jeu asymétrique dont l'asymétrie change en cours de partie.
Ouais, en fait, t'as le droit de. Enfin. On dit que tu as le droit de tricher parce que tu peux te débarrasser des cartes de manière non conventionnelle. Alors, est-ce que c'est de la triche parce que c'est marqué dans les règles? Ça serait encore un autre débat à mener.
On fera un truc
voilà.
Triche.
C'est ça. T'es comme triche, voilà.
On citera Lyon dans cet épisode.
Voilà. Il y a Acariatre et Uglu qui ont parlé de Brave Rats.
Ah, c'était pour le côté symétrique. Hein. Même si, bon, avec les limites qu'on peut exprimer dans Brave Rats.
Oui, avec le tirage de. Voilà. T'as quand même ta pioche de départ.
C'est très spécifique. Mmh. Ou la bataille.
Oui.
Donc Alex P on l'a cité en disant la symétrie est la règle et la symétrie l'exception. Ouais. Là on a dit que c'était plutôt apparemment l'inverse.
Ou enfin dans la manière dont on l'a compris en tout cas. Captain Sonar qui avait été cité par Lapinesco.
Ouais, j'ai pas joué pour le coup. Et alors, cité aussi. Ouais, j'ai pas joué du tout, je saurais pas dire. C'est deux équipes qui ont les mêmes rôles je crois et tout, mais j'ai pas joué du tout. Je pourrais pas dire en quoi.
T'as de la dissymétrie parce que chaque personnage a un rôle différent. Oui. Mais t'as quand même.
Et je crois qu'il le citait dans les jeux symétriques, il me semble. Et
alors disons, t'as une symétrie par équipe, mais t'as de la dissymétrie individuelle.
De la symétrie, de la dissymétrie, tu vois, je l'ai dit,
ouais.
Au sein d'une même équipe, mais par contre, voilà. Une symétrie dans l'opposition
dans
deux.
Dans l'opposition. Ouais.
Je connais vraiment pas assez pour dire, mais voilà, il le citait. Il citait aussi Streams Karuba, auquel tu peux pas jouer non plus, mais je vois pourquoi, parce que c'est aussi une forme de tirage où tout le monde a le même tirage.
Sun Tzu où t'as...
Pareil, je vois aussi pourquoi, parce que t'as les mêmes cartes au début, mais que tu vas jouer très différemment à Sun Tzu.
Alors ceci dit, en fonction, tu tires quand même une carte stratégie, je sais plus comment elle s'appelle, espèce de stratégie avec un pouvoir personnalisé qui rajoute de la dissymétrie. Ouais. Mais t'as un objectif qui est identique, c'est quand même contrôler le maximum de provinces.
Et enfin, donc on avait Théo Rivière qui nous a parlé de Quarto, Mitch Trapp avec les logos par rapport aux échecs, et Quintanakeli, qui nous a fait toute une longue réponse, parce qu'elle disait que elle, les jeux asymétriques, c'est un de ses trucs préférés. Et je te laisse citer les petites citations que j'ai retenues.
Alors elle parlait notamment de... Elle avait principalement retenu la symétrie comme le fait que les joueurs aient des objectifs différents. Donc là, on est d'accord.
Oui, en tout cas, c'est une forme d'asymétrie.
Enfin, c'est une des trois formes qu'on a retenues, en tout cas. Et comme exemple de jeu, elle donnait par exemple Small World.
Non, justement. Elle disait, ce n'est pas parce que les joueurs commencent avec un matériel différent que c'est un jeu asymétrique. Pour elle, Small World ou Smash Up, des peuples et des pouvoirs différents, mais c'est pas des jeux asymétriques parce que le but des joueurs est le même. C'est vrai que quand je joue
qui reste néanmoins accessible à tous.
Oui.
Qui sont pas ils sont exclusifs qu'à partir du moment où tu les as pris.
Et dans l'absolu, la partie, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que t'as pas l'impression de jouer un autre jeu quand tu joues les sorcières malines ou les pygménins, pygménins c'est un peu un pléonasme, mais enfin non parce qu'ils sont pas nains pour eux, mais. Donc voilà, ça c'était sur le fait que le matériel différent n'inclut pas forcément que le jeu soit asymétrique.
Alors tout dépend de quel degré d'asymétrie on veut parler. Hein. Encore une fois, hein, ça reste quand même à l'appréciation de chacun.
Il faudrait sur les boîtes un petit truc, une petite échelle, degré d'asymétrie. Après, elle disait aussi, dans un jeu asymétrique, le but des joueurs doit être différent, mais par contre, ils peuvent faire les mêmes actions, comme dans Mr. Jack par exemple, qui est pour moi la base du jeu asymétrique. Alors, la base, je ne sais pas, mais en tout cas, un bon exemple. Ou faire des actions légèrement différentes, comme dans Tragedy Looper, que je n'ai pas joué. C'est pas celui-là qui est CS Files, non, je ne crois pas.
Je ne sais pas.
Et donc, je te laisse lire cette dernière citation aussi, qui est assez qui a en tout cas fait réagir à Kayat, qui trouvait que c'était magnifique.
Donc, en parlant de Mysterium, elle disait qu'un jeu asymétrique serait plutôt un jeu avec une asymétrie de but, objectif, mais où il y a plein de façons d'être asymétrique.
Comme en géométrie, où effectivement il y a plein de trucs qui peuvent casser la symétrie.
Ouais.
Voilà. Donc on vous laisse avec cette citation.
Bah à partir du moment, oui, on en revient à la définition géométrique. Hein. Dès que quelque chose n'est pas 100% symétrique,
c'est asymétrique.
Il ne l'est pas. Voilà.
Et également, il y avait aussi des discussions sur, dans le jeu de société, des symétries d'un point de vue visuel. Donc on a cité le plateau d'échecs et il y a une longue discussion, est-ce que Flip Chips, est-ce que le logo est symétrique ou non ? Et je crois que la décision finale, c'était que non, parce qu'il y avait une épaisseur différente dans les lignes, dans les S de chips. Mais ouais, si vous avez des jeux symétriques, des plateaux symétriques, n'hésitez pas à les mettre en photo, en commentaire. Je crois qu'on a à peu près fait le tour.
Je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. On est déjà 1h28 de brut.
Ouais. Et juste, n'hésitez pas à aller voir les sujets sur TrickTrack un peu, où il y a pas mal de discussions assez intéressantes sur le forum. Et a priori, ils avaient ouvert un des sujets parce qu'il y avait eu un article sur un plateau, j'ai pas le numéro du tout, mais qui parlait justement de la symétrie ou de l'asymétrie dans le jeu.
Donc si vous avez la collection des plateaux chez vous, n'hésitez pas à nous mettre le numéro. Ouais. Ça serait intéressant. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le terme asymétrique.
Et symétrique.
Asymétrique aussi.
On a fait deux lettres en une.
Donc, on va vous retrouver dans un prochain numéro des Thermos Fromage. On ne sait pas encore quelle lettre ce sera. On va peut-être piocher dans le stock qu'on avait de l'année dernière.
Ouais.
Ou alors, on va scruter les discussions Twitter d'Acariatre et piocher un de ces termes.
N'hésite pas, Acariatre, à lancer des mots comme ça.
Voilà, tu fais du name dropping.
Ouais, c'est ça, un mot, il va mettre fleur. On va dire, oh, allez, F comme fleur, c'est bien.
C'est ça.
Alain nous propose D comme droit d'auteur sur le chat.
Alors, je ne sais pas si on a l'expérience
suffisante. Ce serait typiquement un truc où il faudrait vraiment faire de la recherche, préparer et tout.
Et ça serait presque un truc collégial à faire avec des acteurs du milieu.
Ah ouais, ça serait intéressant.
Parce que nous,
on est un peu fainéants.
Déjà. Non, et surtout, on a un regard qui est totalement extérieur au monde du jeu.
Oui, on arrive et puis on parle, quoi.
Voilà. Des fois, on dit des conneries aussi.
Non, mais oui, et puis surtout, c'est un truc où il faut vraiment des chiffres. Des impressions de la part des éditeurs, des auteurs et tout. Enfin, vraiment, il faudrait travailler. Donc, voilà. Mais il y a moyen. Enfin, ça, c'est plus des
petites tables rondes.
Des tables rondes à faire avec différentes personnes et tout. Voilà. Donc, travailler. Hein. Pourquoi ? Quand on peut faire travailler les autres, ce qu'on a un peu fait aussi pour cette émission, finalement.
Hein, c'est ça.
Essayer autant que possible.
Voilà, on a compris l'externalisation en fait.
Voilà, c'est ça. C'est ça que sert Twitch. En fait, c'est pour vous faire croire que vous participez au truc, alors qu'en fait, c'est pour éviter de bosser. En tout cas, du coup, on a parlé beaucoup. Donc, on va se laisser. On se retrouve donc dans 2 mois, c'est ça ?
C'est ça.
En décembre pour Noël.
Après le prochain numéro de On sort le grand jeu.
Le grand jeu, c'est ça.
On ne sait même pas encore sur quoi ça sera. Quel jeu.
Même nous, en interne, on ne le sait pas.
Ouais.
J'espère que ce sera peut-être les colons de Catane. J'adorerais les voir parler pendant 2 heures des colons de Catane.
Ok. Et bien, comme toujours, que vous aimez notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I, jeu avec un X. Et vous trouverez également les liens vers les jeux qu'on a cités pendant l'émission.
Oui, parce qu'on en a cité beaucoup. Donc, Désolé, parce que c'est vrai que vous le réclamez souvent, et je le comprends. Vous dites pas le nom des auteurs, et c'est vrai que c'est, ou des illustrateurs, ou des éditeurs, c'est vrai que c'est un problème. On aurait peut-être pu dire à chaque fois que l'Austrophobia d'un tel, édité par un tel, illustré par un tel, et encore, faut savoir de quelle édition on parle. Mais c'est vrai que là, en citant autant de jeux, ça alourdirait le rythme. Du coup, à chaque fois, on met dans le billet un éditeur, auteur et un lien vers Philibert quand c'est disponible. Donc, désolé hein, pour les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs et tout. Je sais que c'est quelque chose auquel on tient aussi chez Proxy Jeux. On met tout ça dans le billet autant que possible.
Voilà, ça, c'est ton boulot, hein, de toute façon.
C'est mon boulot, le billet, c'est ça. Et je m'excuse aussi pour l'asymétrie des épisodes de Proxy Jeux au niveau du temps de parole, où c'est pas symétrique du tout.
Pourtant, on part avec le même set de départ. Hein. On a le même micro.
On
a le même conducteur.
C'est vrai. Le tien est même un peu plus rempli parce que tu as fait des petites annotations.
Ouais. Non, mais en fait, il y a une petite dissymétrie. C'est parce que j'ai la console devant les yeux et je surveille les courbes. Tu vois. Donc, je suis pas totalement focalisé sur la discussion.
Yes. Eh ben, en tout cas, donc, on se retrouve dans deux mois pour parler d'un terme du jeu de société.
Tout à fait. On remercie Alain pour ses questions
et
ses remarques sur le Discord. Et on vous dit à bientôt. Et d'ici là, jouez bien.
Mais de manière symétrique.
On peut jouer de manière dissymétrique. Hein.
Oui, on peut, oui.
Non, on va attendre que la machine à café, elle coule. Le matériel...
avoir un matériel différent n'est pas...
Sur la machine à café. J'aime pas si ça s'entend, hein.